Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est d'une œuvre immense, peut-être la plus importante du XXe siècle, que Franck Ferrand a choisi de nous parler aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, c'est sans doute un des monuments de la littérature mondiale. Et vous savez, comme il arrive souvent aux monuments, de nombreux visiteurs se contentent d'en envisager juste l'aspect, comme ça,
c'est
de
vrai,
tourner autour sans trop oser y entrer. Alors notre ambition cet après-midi, c'est de donner envie à ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas, d'aller franchir le portail de cette cathédrale de papier, de phrases ciselées, d'idées lumineuses. Vous allez voir, une fois qu'on est entré dans la recherche, c'est généralement pour la vie, on n'en ressort plus. C'est vous dire si je mesure toute ma responsabilité.
Alors que vous fassiez partie ou non des fidèles de la recherche, envoyez-nous vos mails et vos messages en passant par le site internet d'Europe 1, l'invité de Franck cet après-midi, et Raphaël Enthoven. Et
Raphaël Enthoven, qui, pour filer la métaphore, est un des grands prêtres du culte proustien.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
La dernière domestique de Proust, celle qui devait lui survivre et contribuer largement à entretenir la flamme, s'appelait Céleste Albaret. Elle est entrée au service du grand écrivain quelque temps seulement avant la Première Guerre mondiale, et c'est à elle que j'ai envie de céder la parole pour évoquer d'emblée les derniers moments de Marcel. Nous sommes au matin du printemps 1922, un matin à la mode de Proust, autant dire qu'il doit être pas loin de 3 heures de l'après-midi. Pour la première fois en 9 ans de service, ce grand malade, épuisé, adresse la parole à Céleste au sortir du sommeil. Habituellement, il attendait d'avoir ingurgité une première tasse de café noir, parfois même la deuxième. Bonjour Céleste. Je laisse la parole donc à la fidèle servante. Un instant, son sourire a paru déguster ma surprise, puis il a repris « Vous savez, il est arrivé une grande chose cette nuit. » « Que s'est-il passé, monsieur ? Devinez ?» La jeune femme fait quelques tentatives, puis elle donne sa langue au chat. « Eh bien, Céleste, je vais vous le dire. C'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot « fin ». Il a ajouté, toujours avec son sourire et cette lumière dans son regard, « Maintenant, je peux mourir. » Ce n'était pas un vain mot, car quelques mois plus tard, le 18 novembre 1922, Marcel Proust rendait son dernier souffle. De nouveau Céleste, il faut l'imaginer pleine de larmes. « Je n'ai quitté, dit-elle, Monsieur Proust qu'au cimetière, et même alors je n'y croyais pas. Et puis un jour, il y a eu cette chose extraordinaire. Comme j'étais descendu de l'appartement, j'ai vu soudain la vitrine de la librairie qui était près de la maison rue Hamelin. Elle brillait de lumière, et derrière la glace, il y avait les ouvrages parus de Monsieur Proust. » 3x3. J'ai eu comme un éblouissement de ses presciences et de cette certitude qu'il y avait en lui en pensant à la page de son livre où il parle de la mort de Bergotte, l'écrivain. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, les livres disposés 3x3 veillaient comme les anges aux ailes déployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de la résurrection.
Thank you.
extrait sur Europe 1 de la balade pour piano et orchestre de Gustave Fauré, Franck.
Est-ce que vous me permettez, Julia, de dire quelques mots personnels ?
Mais je vous en prie, c'est l'occasion jamais.
Il y a 20 ans, environ 20 ans, j'habitais dans l'extrême sud de Paris et j'effectuais mon service militaire au château de Vincennes, figurez-vous. Et ça m'obligeait chaque jour à faire 40 minutes de métro le matin et 40 minutes de métro le soir. Alors au départ, c'est pour meubler ces longs déplacements que j'ai ouvert, et je vous avoue que je n'en attendais rien de très particulier, que j'ai ouvert un exemplaire de poche du roman du côté de chez Swann, qui est le premier tome de la recherche. Au bout de 3 jours, j'étais accro. Après 2 semaines, je devais faire un effort sur moi-même pour ne pas ouvrir mon livre ailleurs que dans le métro. Seulement, je m'étais fixé ce cadre et je m'y suis tenu au fil des semaines et des mois, alors que s'égrenaient les volumes à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, Sodome et Gomorre. Parvenu à la prisonnière, je vivais tellement avec Proust. La musique de sa langue si spéciale, la puissance de sa pensée et sa drôlerie aussi, tout cela m'était devenu si nécessaire que, très sincèrement, je ne voyais plus comment j'aurais pu vivre sans. Lorsque s'est achevé mon service militaire, j'en étais arrivé aux premières pages du dernier volume, Le Temps retrouvé, et là, je me suis offert le luxe inoubliable, le luxe suprême de lire tout ça d'une traite, tranquillement, chez moi, loin des secousses et des klaxons du métro. C'était une expérience, ça, vraiment, et une expérience, je le dis franchement, que je souhaite à tout le monde. Alors, comment présenter la recherche du temps perdu ? Comment décrire, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas lu, cette création géante, étrange, parfois difforme, à la fois cohérente et décousue, en tout cas sublime de bout en bout ? Le critique espagnol José Ortega y Gasset disait que tenter de décrire la recherche, ce serait comme de dire, pour expliquer la peinture de Monet, « Monet, c'est un homme qui a peint des cathédrales, des paysages de la Seine et des nymphéas ». En disant cela, ajoutait Ortega y Gasset, vous donneriez bien sûr un renseignement factuel, mais pas un renseignement sur la nature de l'art de Monet. Or, ce que cet après-midi j'aimerais évoquer, c'est précisément la nature de l'art de Marcel Proust. Ce qu'on peut dire déjà peut-être, c'est que cette œuvre profuse, plus de 3000 pages très serrées, cette œuvre est écrite à la première personne. Pensez à l'incipit de l'œuvre, hein, aux premières phrases longtemps. « Je me suis couché de bonheur ». Il y a donc un narrateur que les Proustiens appellent généralement le petit Marcel, on va voir ce qu'il faut en penser, narrateur dont la vie ne se confond pourtant pas, loin s'en faut, avec celle de l'écrivain, narrateur qui nous raconte avec une infinité de parenthèses, de digressions, de tiroirs, avec toutes sortes de portraits, d'observations, de réflexions permanentes qui s'entremêlent, qui se répondent, qui se correspondent. Un narrateur qui nous raconte donc sa formation culturelle, sa formation morale, affective, qui nous raconte surtout comment il en est venu à épouser le métier d'écrivain. Et quand on arrive au bout de la recherche, lorsqu'on lit Le Temps retrouvé, bien on réalise que tout ce qu'on vient de lire, cet immense cheminement, c'était en vérité la genèse d'une œuvre, une œuvre qu'on vient à ce moment-là précisément d'achever.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un récit qui met aujourd'hui à l'honneur sur Europe 1, l'un des plus célèbres monuments de la littérature mondiale à la recherche du temps perdu.
Alors au cœur de cette œuvre, le noyau atomique, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle, d'un terme un peu barbare, la réminiscence proustienne. Qu'est-ce que c'est que cette réminiscence proustienne ? C'est en fait la coïncidence entre une sensation présente, sensation involontaire, je précise, qui arrive comme ça, et puis un souvenir. C'est-à-dire que la sensation, au moment où vous l'éprouvez, vous replonge, on peut même pas dire qu'elle rappelle un souvenir, elle vous replonge dans un passé qui, du coup, prend une sorte de présence immense. Alors, dit comme ça, on se dit, mais oh là là, est-ce qu'on est bien sur Europe 1, 13h42 ? Vous allez voir que, en prenant des exemples et en y allant petit à petit, vous allez saisir ce qu'est cette réminiscence, qui donc est la base même de cette œuvre qui est la motivation profonde de Marcel Proust. Il raconte qu'il avait depuis longtemps tout oublié de son village qu'il appelle Combray. En fait, le village, son véritable village d'enfance, lui, c'était Illié, qui aujourd'hui d'ailleurs s'appelle Illié-Combray pour des raisons évidentes. Il avait tout oublié de Combray quand un jour d'hiver, sa mère, voyant qu'il avait froid, lui propose de lui faire prendre un peu de thé. Et elle envoie chercher un de ces gâteaux, vous savez, les petits gâteaux rainurés, là, qu'on appelle les madeleines. Et Proust, machinalement, porte à ses lèvres une cuillère de thé où il a laissé amollir un petit morceau de madeleine. Et à l'instant où la gorgée de thé mêlée des miettes du gâteau touche son palais, et bien d'un seul coup, il se sent envahi, si vous voulez, d'une sorte de plaisir particulier, tout à fait délicieux et incompréhensible. Ce plaisir lui a rendu, dit-il, tous les malheurs de la vie comme indifférents, la brièveté de la vie illusoire, autant dire qu'à ce moment-là, il accède donc à une forme d'éternité. D'où vient cette joie? Il faut une deuxième gorgée pour l'appréhender réellement. Alors, le narrateur boit une deuxième gorgée et lentement, il arrive à trouver que ce goût qui lui donnait des sensations si fortes, ce goût, c'était celui d'un petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand il allait lui dire bonjour, sa grand-tante Léonie lui offrait après l'avoir elle-même trempé dans son infusion. Et cette sensation, qui est exactement une sensation de son passé, évoque pour lui, avec une netteté beaucoup plus précise que celle de la mémoire qu'on pourrait en avoir, évoque tout ce qui se passait à Combray. Pourquoi ce mode d'évocation est-il si puissant? Eh bien parce qu'alors, nous dit le narrateur, les images du souvenir qui généralement sont fugitives, n'ayant pas de sensation forte pour s'y appuyer, trouvent le support de la sensation présente. Ça, c'est la Madeleine de Proust, c'est le moteur même de toute cette œuvre et c'est finalement ce que le lecteur lui-même, à l'issue de cette très longue et très divagante pérégrination, c'est ce que le lecteur est amené à ressentir et à expérimenter lui-même. Beaucoup plus loin, dans Le Temps retrouvé, on voit le narrateur entrer chez les Guermantes et vous savez, il est dans la cour de l'hôtel particulier et il y a deux pavés qui sont assez disjointes et il dit que l'un des pavés, mal équarri, est un peu moins élevé que son voisin. Voilà la façon dont Proust décrit exactement les choses. Et d'un seul coup, même chose, toutes les tristes pensées qu'il avait accumulées depuis un certain temps s'évanouissent et il a l'impression de vivre intensément, je le cite, « comme au moment où j'avais goûté la Madeleine, toute inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel était liquidé. Un amour profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d'éblouissante lumière tournaient près de moi chaque fois que je refaisais ce même pas, un pied sur le pavé plus élevé, l'autre pied sur le pavé plus bas. Je réussis, oubliant les Guermantes, à retrouver ce que j'avais senti, la vision éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle m'avait dit « Saisis-moi au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l'énigme du bonheur que je te propose. » Et presque tout de suite, je le reconnus, c'était Venise, dont mes efforts pour la décrire ne m'avaient jamais rien dit et que la sensation que j'avais ressentie jadis sur deux dalles inégales de la basilique Saint-Marc venait de me rendre avec toutes les autres sensations de ce jour-là. Vous voyez comment fonctionne en quelque sorte l'esprit de Proust. C'est peut-être le moyen qu'a cet esprit tellement torturé. C'est peut-être la seule solution qu'il a trouvée, lui, ce personnage dont nous verrons à quel point il peut être néanmoins en difficulté avec la réalité. Il est sans doute atteint d'une névrose assez forte. Du reste, c'est le moyen qu'il a trouvé d'abolir le temps. Et je dirais moi, et ça n'engage que moi, au-delà du temps, d'abolir l'ego qui fait en quelque sorte obstacle, qui fait écran entre le monde et lui. Tout ce monde de papier pour nous amener à simplement vivre, revivre, ressentir, saisir et ressaisir un monde qui est simplement le réel.
extrait de Parsifal de Richard Wagner sur Europe 1.
Oui, histoire de faire plaisir quand même à Madame Verdurin, la wagnérienne, la plus wagnérienne en tout cas des personnages de La Recherche du Temps Perdu.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongée au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Proust, au cœur du temps, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1. Et pour en parler, vous êtes en compagnie du philosophe Raphaël Enthoven, Franck.
Raphaël Enthoven qui a dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle Lecture de Proust avec un certain nombre de grands proustiens qui sont venus lui parler à la radio pendant longtemps avec beaucoup de, avec force détail de leur propre lecture de Proust. C'est ce qui d'ailleurs est passionnant. Vous avez recueilli tout ça, Raphaël Enthoven, et vous en avez fait un ouvrage qui est une sorte de d'hommage. On appelait ça autrefois un mélange, un hommage à Marcel Proust.
Plus qu'un hommage, oui, un mélange. On ne parle bien de Proust que du cœur, hein, depuis le cœur. Donc ceux que j'ai fait venir pour en parler ont en commun d'aimer Proust passionnément et d'avoir fait cette expérience que vous avez si bien décrite tout à l'heure, Franck, qui est l'expérience qui consiste à transformer finalement le monde quotidien qui passe, qui défile, le monde du quotidien, hein, le monde de la radio qu'on écoute tous les jours, le monde de l'actualité, de le transformer, ce monde qui parfois nous fait mal, de le transformer en matière à penser, voire...
De le sublimer finalement.
C'est pas le sublimer, c'est le prendre tel qu'il est, l'assumer tel qu'il est dans son âpreté, dans sa dureté, au point d'en faire une énigme de bonheur. C'est ça le paradoxe. C'est que le bonheur, ça n'est pas s'abstraire du monde, c'est au contraire mettre les mains dedans. Et c'est la grande leçon de la recherche. Quand on lit La Recherche du Temps Perdu, on ne s'évade pas, on met les mains, j'allais dire, on met le nez dans le monde, et c'est là qu'on y trouve plus que le bonheur, on y trouve la joie.
Alors nos auditeurs sont exactement d'accord avec ça et nous recevons beaucoup de messages. Thomas nous dit « J'ai longtemps usé de La Recherche du Temps Perdu comme d'un exemple de culture snob. Ce n'est qu'après avoir lu Du côté de chez Swann que j'ai enfin compris toute l'admiration dont l'œuvre de Proust était entourée et je suis actuellement à la fin de L'ombre des jeunes filles en fleurs. » On peut lui souhaiter d'aller beaucoup plus loin encore.
C'est déjà pas mal. Hein.
Comme vous l'avez dit, nous dit Mireille, je n'ai jamais réussi à aller au-delà de la 50e page. Et pourtant, à l'époque, je lisais tout avec beaucoup d'éclectisme. Mais, en l'occurrence, elle trouve que Proust est assez ennuyeux. On va essayer de la faire changer d'avis. C'est également Jean-Pierre qui nous dit se rappeler un mot de Raymond Barre, qui était invité de Bernard Pivot à Bouillon de Culture, et qui disait « Je suis entré chez Proust comme on entre en religion ». Etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'impression que le fait de pénétrer cette œuvre est un moment important dans la vie. Habituellement, on ouvre un roman, on ouvre un livre, même parfois de très grands livres, mais sans vraiment être conscient d'effectuer une démarche importante. Là, c'est une démarche. On entre en Proust.
Ne serait-ce que parce que la première phrase, si célèbre et si fameuse, ce que tout le monde connaît, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », est une première phrase qui correspond, alors là, pour le coup, explicitement à une expérience que nous avons tous faite et qui, en fait, est l'enfance elle-même. Et il y a fort à parier sur le fait que l'objet de la recherche, c'est entre autres de convertir cette phrase « longtemps je me suis couché de bonne heure » en « longtemps je me suis couché de bonheur ». C'est-à-dire, évidemment, transformer la bonne heure en heure bonne, en bonheur. Et c'est l'objet du livre, hein, et c'est comme ça que ça marche. C'est un opérateur, hein. C'est le meilleur allié de la vie, hein. Il n'y a pas mieux pour accompagner l'existence.
Et le tout premier mot, c'est « longtemps », sachant que le tout dernier, ce
le
sera
temps. « Le temps ».
Le temps, est au cœur de cette affaire, mais attention, le temps est l'allié du narrateur, mais il finit par être détruit, parce que le but, c'est d'aller au-delà du temps. Hein.
C'est encore mieux que ça, il me semble. Vous avez raconté l'épisode du pavé mal équarri, qui est une des expériences pétrifiantes. Une fois qu'il sent le pavé mal équarri, à ce moment-là, il a l'impression que les sensations se sont liguées pour l'envahir, au fond. Il est désespéré juste avant, il croit qu'il n'a pas de talent,
oui,
qu'il n'écrira jamais son
voyage
livre,
en train, terrible.
Il est malheureux. Et puis, il fait cette expérience de pavé mal équarri, éternité d'une sensation, il s'aperçoit que c'est la même, qu'elle n'a pas bougé. Elle est là, il se dit « l'éternel n'est pas dans les idées. L'éternel, c'est la sensation quand on la sculpte. » Et puis il continue, et puis il entend le plissement d'une serviette qui lui rappelle le grand hôtel à Balbec ou Cabourg. Puis il entend le tintement d'une cuillère qui lui rappelle le carillon de chez lui. Et les sensations comme ça se multiplient. Et à mesure que ces sensations se multiplient, il sent ce qu'il appelle du temps à l'état pur. Or, C'est juste à ce moment-là que la réalité lui offre l'objection la plus forte qu'on peut faire contre l'art. Il arrive chez la princesse de Guermantes, l'ex-madame Verdurin devenue princesse de Guermantes. Une soirée mondaine, bon, une matinée mondaine. Il arrive et il voit tout le monde, il a l'impression que tout le monde s'est fait une tête, que tout le monde s'est déguisé.
Le fameux bal de tête.
Mais oui, le bal des têtes. Tout le monde s'est mis une perruque blanche. Et en fait, il comprend que tout le monde a vieilli, ça fait 10 ans qu'il ne les a pas vus. Tout le monde a vieilli. Et il comprend à ce moment-là que leur vieillesse le terrifie parce qu'elle l'avertit des approches de la sienne, de sa propre vieillesse. Il s'est dit, voilà, le temps va passer, comment faire? Le temps va passer, il va tout détruire, comment faire? Et il comprend en même temps que le temps, la blancheur des cheveux, c'est pas seulement l'avancée de la mort, c'est aussi le suc de la mélancolie, c'est aussi la neige de la mélancolie. Bref, qu'il y a dans les dégâts du temps, dans les ravages du temps, la matière des métaphores, la matière de l'art, la matière de l'éternité. Et c'est à cet instant qu'il bascule du temps perdu à ce qu'il appelle le temps retrouvé. Le moment où le temps qui est notre ennemi, hein, le temps qui nous décompose, qui nous ride, qui nous affaiblit, qui nous rend impuissants, le mauvais temps si vous voulez, eh bien ce temps-là est sublimement, immédiatement, en une fraction de seconde, converti en temps retrouvé, c'est-à-dire en matière première de l'art qui part du principe tout simple que ce qui est précaire est précieux et donc hautement désirable et bien plus désirable que ce qui est éternel, ne finit jamais et donc n'existe pas.
C'est le précaire, finalement, et non pas l'éternel qui est...
C'est le précaire qui est éternel. C'est l'éternité qui est dans l'instant. L'éternité finie. Expérience qu'on peut tous faire. Un instant d'éternité, on en a tous connu. Un premier baiser, un moment où on sort de chez soi, la dissipation de la tristesse, on ne sait pas pourquoi. Des instants d'éternité comme ça. Ce livre est délivre le secret, l'alchimie, la formule secrète de ces moments qu'on a tous vécus. C'est très simple, c'est la vie de tous les jours et c'est la vie de chaque instant. L'une est l'écrin de l'autre. La recherche du temps perdu nous fait passer de l'une à l'autre. Du temps perdu de tous les jours au temps retrouvé de chaque instant.
Nous ne venons que de faire quelques premiers pas dans cette recherche du temps perdu et vous voyez déjà où tout cela nous mène. Juste après le flash de 14h, nous reviendrons évidemment avec Raphaël Enthoven sur tout cet univers tellement riche et qui finalement pour nous est une leçon de vie.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On fêtera le 140e anniversaire de la naissance de Marcel Proust le 10 juillet prochain. Et à cette occasion, Franck, vous recevez le philosophe Raphaël Enthoven.
Raphaël Enthoven qui a dirigé donc cet ouvrage « Lecture de Proust » en coédition Fayard et France Culture, avec un certain nombre d'auteurs, de personnalités qui sont venus s'entretenir avec lui de cette œuvre extraordinaire, mais aussi de ce personnage. Et j'aimerais qu'on vienne justement à ce lien entre le véritable Marcel Proust et puis le petit Marcel, d'ailleurs dont le nom n'apparaît qu'une seule fois, c'est
deux
dans
fois.
Albertine. Deux fois.
Oui. C'est dans la prisonnière notamment, elle le baptise au réveil. Albertine se réveille, elle dit mon chéri, et à ce moment-là l'écrivain fait une parenthèse, il dit... À supposer que le narrateur de cette histoire s'appelle comme l'auteur de ce livre, ça donnerait mon Marcel, mon chéri Marcel. Voilà, c'est le seul... Il y a une autre occurrence, je crois, mais en tout cas, c'est très rare. C'est les seuls moments où le narrateur se donne à lui-même le prénom qui est celui de l'écrivain, ou alors l'écrivain donne au narrateur le prénom qui est le sien. Mais pour le reste, ils sont malgré tout tout à fait différents.
Bien distincts, hein. Distinct, en tout cas.
Pour une raison de fond et pour une raison... d'anecdotes. La raison de fond, c'est que la recherche du temps perdu, c'est pas de l'égo-fiction. C'est le remède à l'égo-fiction. C'est l'antidote à l'égo-fiction. C'est écrit à la première personne, vous l'avez rappelé, mais c'est vraiment une première personne qui nous débarrasse du moi, du gros moi poisson-lune qui s'interpose entre le monde et soi, justement. Donc c'est vraiment l'antidote de l'égo-fiction. Il s'agit pas de tenir pour un trésor son petit tas de secrets, mais d'appeler à une communauté de sensations au-delà des siècles, des lecteurs, des distances, de l'espace et du temps. Donc ça, c'est le premier point, c'est très très important. Donc à cet égard, évidemment, rabattre la vie de l'auteur sur la vie du narrateur ou ce que le narrateur en dit, c'est un contresens anti-proustien. Et la deuxième raison, c'est que factuellement, hein, Marcel Proust a eu trois duels au moment de l'affaire Dreyfus, parce qu'il était Dreyfusard. Le narrateur s'en fiche un peu, hein, je veux dire, il a des amis qui sont Dreyfusards, puis qui cessent de l'être. C'est pas son problème. En tout cas, l'antidreyfusisme n'est pas un critère de désaffection chez lui. Alors, il y a ce point-là. Le patriotisme du narrateur n'est pas le même que celui de Marcel Proust. Céleste Albaret n'a rien à voir avec Françoise, qui traverse le roman. Hein.
Françoise, qui est au départ la cuisinière donc, de Tante Léonie.
De Tante Léonie, qui finit au service du narrateur, après être passée par les parents. Mais c'est pas la même personne. Et d'ailleurs, c'est si vrai que
non,
Céleste
était
Albaret,
beaucoup plus raffinée, beaucoup plus discrète. Elle n'avait pas ce côté femme de la campagne.
C'est une femme de la campagne, ouais. C'est surtout une femme du Moyen-Âge, au fond. Elle a un lexique, un vocabulaire, ce qui fait que du coup, elle fait des tas de fautes de français dont le narrateur se moque au début avant de comprendre qu'elle entretient avec le français le rapport que le français entretient avec le latin. Elle est en train de créer une langue nouvelle. Et donc, elle est écrivain, elle aussi, à sa manière.
Alors, certains lieux, évidemment, sont totalement transmués, mais ils sont transposés aussi. Évidemment, la fameuse Balbec, hein, cette station balnéaire merveilleuse avec son grand hôtel, etc. C'est la Cabourg normande, à relativement peu de choses près.
Oui, mais c'est ce peu de choses qui fait l'essentiel, justement. C'est que ça n'est pas transposable. C'est ça qui est merveilleux. D'ailleurs, Illier et Combray, c'est un malentendu. En 1971, si j'en crois les historiens du lieu, Illier est donc devenu Illier-Combray pour le centenaire de la naissance de Marcel Proust. Mais c'est en soi un contresens, précisément. Illier n'est pas Combray. Combray n'est pas Illier. Combray est partout où un individu fait l'expérience de la petite Madeleine, c'est-à-dire en goûtant quelque chose, se retrouve téléporté dans sa propre enfance. Donc Illier n'est pas Combray, c'est dommage.
Alors justement, la responsable de ce qu'on pourrait considérer comme la maison de Tante Léonie, et qui en tout cas a bien été la maison de campagne des Proust à Illier, donc tout près de Chartres, c'est Mireille Naturel. Elle fait partie évidemment des personnalités avec lesquelles vous vous êtes entretenu dans cet ouvrage Lecture de Proust, Raphaël Enthoven, et Mireille Naturel, qui par ailleurs est maître de conférence à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et secrétaire générale de la Société des Amis de Marcel Proust, est avec nous au téléphone. Bonjour Mireille Naturel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Oui, c'est un plaisir.
Avant d'aller se promener dans cette petite maison tellement charmante et tellement pleine d'un très grand pouvoir d'évocation, j'ai pour coutume de conseiller aux gens de lire Sur la lecture, qui est un texte assez court de Marcel Proust, mais dans lequel il raconte, alors là, ce n'est plus le narrateur, c'est bien Marcel Proust qui raconte sa propre enfance dans cette vraie maison d'Illier.
Oui, vous avez raison, c'est là que l'on a la description la plus précise des lieux, ou du moins la description la plus précise des lieux tels qu'ils ont été reconstitués, puisque la réalité s'est inspirée de la fiction, de l'écriture de Proust, mais c'est là que l'on a une description de la chambre, des courtines, de la pendule qui jacasse, des fleurs séchées, des coquillages. C'est vrai, c'est par ce texte-là, sur la lecture, qui précède la traduction de Ruskin, qu'il faut commencer.
Alors, au-delà de ce texte tout à fait autobiographique, le premier volume de la recherche, et notamment la première partie de ce volume, qui s'appelle Combray, décrit assez précisément la maison dont vous avez la charge.
Oui, 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 on peut la reconnaître, enfin on peut reconnaître le village. Je pense qu'il est important de resituer cette maison dans le village, parce que Combray, c'est avant tout un village, c'est avant tout un clocher que l'on aperçoit de très loin en train, et il y a des...
Ça, c'est l'avantage de cette grande plaine de Beauce, hein.
Oui, 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 et il y a des...
On voit les clochers de loin.
Oui, qui font cette expérience, qui réservent une place dans le train pour voir le clocher tel que les Proust le voyaient, puisqu'ils venaient en train à Illier-Combray, enfin à Illier plus exactement. Et c'est d'abord le village qui est décrit, et c'est important parce qu'il y a toute une organisation de l'espace qui se réorganise dans le sens inverse à partir de l'expérience de la Madeleine. On part de la tasse de thé et puis il y a un premier cercle qui se construit, c'est ce qui entoure le héros, l'enfant qui est près de sa tante, qui lui offre cette Madeleine et ce tilleul. Et puis le cercle se grandit et il y a plusieurs cercles qui finalement finissent par englober entièrement le village, ses fleurs, et c'est un espace qui est très structuré. Donc,
bien sûr. Alors, ce qui frappe lorsqu'on visite cette charmante maison, c'est son côté quand même très modeste. Le père de Marcel Proust, le professeur Adrien Proust, était un grand ponte de la médecine, mais il était d'une origine tout à fait modeste. Ce qui fait du reste que l'auteur lui-même va constamment être ballotté entre ces deux milieux que sont la petite bourgeoisie de province et puis la très grande bourgeoisie, voire l'aristocratie parisienne.
Le père était fils d'épicier et l'on voit encore la maison familiale juste en face de l'église. Et l'origine, effectivement, de cette famille très beauceronne et modeste, si l'on remonte plus loin dans la généalogie, c'est encore plus modeste comme origine sociale. Et
quant à sa mère, elle était juive elle-même et elle n'a d'ailleurs jamais renoncé à sa religion.
Non, elle n'a jamais renoncé. Elle était parfaitement intégrée dans la pratique chrétienne. On la voit en tout cas dans le roman aller à l'église. Les enfants étaient baptisés, mais par fidélité à ses parents, elle n'a jamais voulu se convertir et elle est enterrée selon le rite juif. Donc c'est un enfant, je crois que c'est déterminant aussi pour cet enfant qui a très vite assimilé le binarisme, qui a les
oui.
deux côtés, c'est déjà les deux côtés des parents.
C'est pas le côté de Guermantes et le côté de mes églises, mais c'est un peu ça néanmoins. On va y revenir dans un instant avec Raphaël Enthoven. Merci beaucoup Mireille Naturel. Comment fait-on pour visiter la maison de Tante Léonie à Illiers-Combray ?
C'est très simple, cette maison est ouverte tous les jours sauf le lundi. Vous avez deux visites commentées, l'une à 14h30 et l'autre à 16h. Et vous pouvez aussi faire une visite libre entre 14h15 et 17h. Et nous avons une guide très, très vivante qui sait faire revivre
oui,
ces lieux. Donc, on vous y attend.
Merci beaucoup, Mireille
Naturel. Je vous en prie.
Un mot, Raphaël.
Un tout petit mot juste pour dire l'excellence du travail de Mireille Naturel. C'est un travail nécessaire qui est fait là-bas à Combray et qui véritablement est une façon d'entrer dans le livre. C'est une très bonne manière de le faire. Voilà.
L'hommage a été entendu.
Un petit mot du jeu Europe Stop. Stéphane Gabart est aujourd'hui dans la ville de Strasbourg, mais je vous rappelle que vous pouvez participer à ce jeu pour peut-être tenter de remporter des cadeaux, mais aussi 5000 euros. Appelez-nous au standard Europe 1, c'est le 3921, 34 centimes d'euros par minute, ou envoyez le mot jeu par SMS au 739 21, 50 centimes d'euros plus coût d'un SMS. Bonne chance à tous.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Sonate numéro 1 pour violon et piano de Camille Saint-Saëns sur Europe 1.
On pourrait peut-être évoquer un peu la fameuse sonate de Vinteuil. Vinteuil, c'est le compositeur dans la recherche. Il y a comme ça un certain nombre d'artistes, évidemment. Elstir, le peintre, qui est inspiré, évidemment, notamment de Claude Monet. On a parlé de Bergotte tout à l'heure, l'auteur. La Berma également, la Berma grande tragédienne qui nous fait penser à notre Sarah Bernard d'hier.
Bien voyez. Sûr.
C'est pour ça que je vous disais que ces deux émissions étaient reliées. D'ailleurs, nous avons entendu hier un très bel extrait de leur exquise de Reynaldo Hahn qui a été l'ami et même un ami très proche de Marcel Proust. Il faut évoquer aussi cet aspect, les amitiés particulières de l'auteur. Marcel Proust est homosexuel, il a eu un certain nombre d'aventures, de liaisons, etc. Or, dans la recherche, le narrateur, lui, est hétérosexuel. Ce n'est pas Albert, c'est Albertine, Raphaël Enthoven.
C'est Albertine qu'on a rabattu sur le personnage d'Agostinelli, qui était donc l'amant. Le dernier chauffeur et l'amant de l'écrivain. Mais vraiment, c'est secondaire. Ce qui compte, effectivement, c'est la personne du narrateur et son rapport, lui, à ce qu'il appelle le mal, c'est-à-dire l'homosexualité. Mal M.A.L. Quand il soupçonne Albertine d'avoir de le tromper, quand il est jaloux, il la soupçonne de faire le mal. Il souffre plus à l'idée qu'elle puisse coucher avec une fille plutôt qu'avec un garçon. Ça lui semble une chose absolument insoutenable. Il compare en même temps, c'est dans le même livre, qu'il compare l'homosexualité ou l'homophobie, plus exactement, à l'antisémitisme. Et les homosexuels aux juifs. Il y a là tout un parallèle à faire, notamment au moment de l'affaire Dreyfus.
Alors, justement, tout à l'heure, Julia nous a rappelé que Marcel Proust était né en juillet 71, c'est-à-dire juste après la Commune. Ça n'est pas du tout anodin. Mais surtout, cela veut dire qu'au moment de sa maturité, quand il va arriver vers 20-25 ans, on est en pleine affaire Dreyfus.
Et certainement, la recherche se ressent du fait que l'écrivain a traversé cette période. Lui-même, donc, était assez querelleur. A eu 3 duels au moment de l'affaire Dreyfus, avec des anti-Dreyfusards. Dans la recherche, il traversa. Alors, ça donne des moments de bravoure dans la recherche du temps perdu. Par exemple, le duc de Guermantes. Chez les Guermantes, si vous voulez, on est antisémite par définition. Et pourtant,
presque
il y a un ami...
de naissance.
Alors, comme tous les antisémites, ils ont leur bon juif. Leur bon juif, c'est Swann, qui est la figure de l'écrivain raté ou de l'artiste qui ne donnera pas le jour à l'œuvre que
l'homme
l'écrivain...
L'homme de salon, en l'occurrence.
C'est l'homme de salon, c'est celui qui, un peu comme Bergotte, d'une certaine manière, même si Bergotte a une œuvre, c'est celui qui sacrifie, au fond, le talent qui est le sien ou les intuitions qui sont les siennes, aux mondanités. Bon, pour le dire très, très, très rapidement. Mais sur l'affaire Dreyfus, c'est très drôle parce que le duc de Guermantes, qui est un personnage tout à fait extravagant, assez drôle, parfois sympathique, souvent odieux, le duc de Guermantes, un jour, se présente nonchalamment à la présidence du Jockey Club. Et puis, il est battu par Chausse-Pierre, parce que Chausse-Pierre, qui est un personnage moins prestigieux que le duc de Guermantes, fait campagne sur le thème « Il est ami avec des juifs, ils sont probablement Dreyfusards, d'ailleurs sa femme est peut-être juive, etc. etc. » Et il perd. Et le duc de Guermantes conçoit l'amertume qui vient aux gens qui font négligemment campagne pour quelque chose. Imaginez De Gaulle battu en 65. C'est pas possible. Et du coup, le duc de Guermantes devient anti-Dreyfusard à la suite de ça. Et le Proust raconte à merveille la façon dont les grandes options idéologiques naissent de toutes petites causes, de toutes petites vexations personnelles.
Il le raconte avec un humour incroyable. C'est Raphaël Le qui nous écrit donc par Internet et qui nous dit « Pourquoi parle-t-on si rarement de l'humour pourtant si présent dans la recherche ?»
Ah, mais c'est tellement drôle. Prenons juste un exemple, le baron de Charlus, qui est le personnage le plus drôle de la recherche, certainement, qui est le frère du duc de Guermantes, qui est un homosexuel canaille, c'est-à-dire qu'il aime le conducteur de bus pour lequel il se fait refriser, et il méprise en même temps
pendant
ses semblables.
Pendant la Grande Guerre, on le voit même dans un véritable bordel.
Tel un Prométhée enchaîné, en train de se faire fouetter par des soldats qu'il paye grassement pour lui dire des mots cochons. tout ça, c'est dans la recherche du temps perdu. Et le baron de Charlus, qui est un personnage hilarant, Les mœurs du baron de Charlus commencent à être connues. Et le baron de Charlus est amoureux d'un violoniste mal élevé, surdoué mais mal élevé, qui s'appelle Morel. Et un jour, Morel lui fait la tête. Et pour obtenir que Morel vienne, le baron de Charlus invente qu'il a lancé un duel à quelqu'un qui aurait mal parlé de Morel. Et il se donne comme témoin de duel le docteur Cottard, qui est un autre personnage hilarant, qui est un beauf, pour le dire très vite.
Mais
qui
grand médecin.
Grand médecin. Le docteur Dieu, comme dit Madame Verdurin. Et alors Cottard arrive... Et Charlus lui dit, finalement, le duel, on renonce parce que Morel est revenu. Donc il dit, non, finalement, l'offense n'en était pas une, etc. Et pour flatter Cottard, il lui caresse la main, comme les Guermantes flattent le museau de leur cheval avant de lui donner un sucre. Seulement Cottard, qui connaît les mœurs de Charlus, croit qu'il a tout ça est un stratagème et qu'il va être violé sur place. Ça donne des quiproquos.
C'est hilarant,
c'est irrésistible. Il y a des passages absolument irrésistibles. Et en réalité, l'humour est omniprésent.
Et j'en profite justement pour rendre hommage à mon ami Hippolyte Wouters, qui écrit un très joli opuscule qui s'appelle « L'humour chez Proust ». Et il a tout simplement été grappillé à travers cette immense œuvre tous les moments de très grands comiques, car il y a réellement du comique. Et moi, je me rappelle très bien effectivement que ma plus grande surprise lorsque j'ai découvert la recherche, c'est d'avoir passé mon temps à rire, tout simplement.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Vous êtes nombreux à réagir, à nous poser des questions sur Marcel Proust et nous en sommes ravis, continuez à le faire sur
Europe1.fr. Nous sommes donc en compagnie de Raphaël Enthoven qui a dirigé cet ouvrage collectif. Ce sont des entretiens avec Raphaël Enthoven, des entretiens au départ radiophoniques, lecture de Proust. Ce sont, on peut dire, 11 conversations. C'est un véritable chemin de lecture à travers cette œuvre profuse. Nous avons parlé de l'humour, nous avons dit un mot de l'homosexualité, de la question du judaïsme. Et un sujet fondamental dans cette œuvre, c'est la question de la société, du monde, de l'aristocratie qui fascine littéralement le narrateur.
Ça fascine le jeune homme qui est le narrateur d'abord, qui veut intégrer l'aristocratie et à qui le hasard offre de vivre dans la cour de l'hôtel des Guermantes. Donc à cet égard, il
tombe bien.
Ça tombe bien et ça lui permet surtout de faire l'une de ses expériences de déception fondamentale. Le narrateur va de déception en déception avant de passer au temps retrouvé, avant de basculer dans le temps retrouvé. L'une de ses déceptions, c'est de constater que que ces demi-dieux qu'on appelle Guermantes, dont le visage orne les façades de l'église de Combray, les vitraux de l'église de Combray, eh bien, sont des individus comme les autres, et il leur pardonne encore moins, évidemment, de n'être qu'eux-mêmes.
Il pensait, étant petit, que cette duchesse de Guermantes était d'une autre nature.
Et il éprouve ce qu'il appelle ensuite la tyrannie du particulier. Comment on fait pour abstraire le réel de la tyrannie du particulier? Comment on fait pour surmonter la déception? C'est comme le jour où on rencontre un joueur de foot qu'on adore et où on s'aperçoit qu'il a les mains moites, qu'il n'a aucun intérêt et qu'il dit des gros mots, si vous voulez. C'est une expérience personnelle.
Ça sent l'expérience personnelle.
Je ne donnerai pas de nom, naturellement. Mais c'est ça qui est intéressant. Et alors, il y a au-delà de ça, ce qu'il peut dire du snobisme, qui est très intéressant parce qu'il aide à penser que, en général, on indexe le snobisme sur une classe sociale. On dit c'est les aristocrates ou les bourgeois qui sont snobs. Mais en fait, tout le monde est snob. Les Verdurin,
chacun
le salon Verdurin
dans son genre,
est snob, c'est les snobs camarades. Ici, on est entre camarades, on se gêne pas. C'est ça leur snobisme. Et ils excluent tous ceux qui sont moins ouverts d'esprit qu'eux, si vous voulez. Les aristocrates, naturellement, ils ont leur snobisme à eux. Leur snobisme à eux, c'est de faire paysan, justement, parce que ce sont des aristocrates qui se respectent.
Avec ce fameux complexe de Swann, c'est comme ça qu'on a nommé cette attitude qu'a Swann de faire semblant de ne connaître quasiment rien et survoler tout sujet.
C'est parce que le Swann, qui est de ces personnages transversaux qui passent d'un univers à l'autre, passe des Guermantes au Verdurin parce qu'il est amoureux d'Odette qui, elle, fréquente le salon Verdurin. Et il arrive chez les Verdurin et les Verdurin l'accueillent, le trouvent sympathique et puis à un moment, il commence à le regarder d'un autre œil parce qu'il découvre qu'il connaît les Guermantes. Et ça, chez les Verdurin, chez les anti-snobs, les snobs anti-snobs, ça ne pardonne pas. Et Swann est celui qui, dès qu'il a un truc important à dire, il le dit sur un ton badin. Dès qu'il a une rencontre importante ou dès qu'il connaît quelqu'un d'important, qu'on lui demande s'il le connaît, qu'il ne ment pas et qu'il dit que c'est vrai, il passe dessus très rapidement. C'est une des formes, chez Swann, de l'élégance. Mais le snobisme, juste un point, ça va jusqu'au liftier du Grand Hôtel. Ça va jusqu'à Françoise, la servante du narrateur. Ça va même jusqu'au narrateur lui-même, évidemment. Le snobisme, c'est l'attitude qui consiste à mépriser ce qui nous dépasse, au fond. Ce qui nous dépasse, c'est-à-dire ce qui nous échappe. Et en fait, il livre la clé qui est celle du sentiment amoureux parce qu'on l'a pas assez dit. La recherche du temps perdu est un livre désespéré sur l'amour. Un très beau livre de Nicolas Grimaldi s'appelle Les horreurs de l'amour à propos de la recherche du temps perdu.
Grimaldi qui fait aussi partie de, oui, évidemment, de vos intervenants.
L'amour chez Proust, c'est l'expérience que nous faisons d'un autre qui accède à l'infini, qu'on ne peut jamais enfermer, ou alors quand on l'enferme, on lui coupe les ailes et on n'a plus envie de le voir.
Et c'est toute la question ça d'Albertine disparue, la fugitive, c'est la question de la jalousie qui est également au cœur de la, vous voyez. Et nous n'avons fait, je précise ça pour nos auditeurs, nous n'avons fait qu'effleurer cette œuvre immense.
Hein,
c'est à peine effleuré. J'ai un peu honte de dire que je suis venu à la recherche grâce à la télé, nous dit Patrick. J'ai trouvé l'adaptation de Nina Companès passionnante et loin d'être ridicule. Qu'en a pensé votre invité? En un mot, Raphaël.
En un mot, alors un seul mot, allez deux. Dominique Blanc et Didier Sandre.
Ouais,
elle en Madame Verdurin, lui en Baron de Charlus. Extraordinaire.
Rien que pour ça, voilà. Ça vaut la peine. Et puis de toute façon, c'est assez agréable. Et si
c'est
ça peut donner envie aux gens d'aller lire la recherche,
c'est toujours ça de donner.
C'est toujours ça, exactement. Exactement. Lecture de Proust sous la direction de Raphaël Enthoven. C'est édité par Fayard et France Culture dans la collection Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Merci beaucoup.
Merci
vous nous avez un peu guidé sur ce chemin broussailleux, extrêmement malaisé et en même temps tellement délicieux. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Cet après-midi, on va consacrer notre émission au correspondant, cet étudiant britannique, chinois ou encore mexicain qui peut en une soirée faire de son séjour un véritable cauchemar pour vous. On va vous donner tous les conseils pratiques pour réussir au mieux cette immersion dans notre pays. On va également se mettre du côté de vos enfants qui vont peut-être partir à l'étranger cet été. Comment préparer au mieux ce voyage? On va tout vous dire jusqu'à 15h30 et on attend bien sûr vos témoignages, vos anecdotes sur vos enfants et leurs correspondants dès à présent sur faustine.europe1.fr et en direct au 3921, Franck.
Correspondance.
Les correspondances.
À demain, Julia.
À demain, Franck, sur Europe 1.